quelques semaines, le 20 septembre exactement, est sorti le nouveau livre de Jean-Pierre Ostend, La Présence. Ce nouvel ouvrage chez Gallimard a été précédé de deux autres publications cette année, l'une avec Joachim Moguera, le plasticien, l'autre avec Franck Pourcel, photographe. La Présence, dont nous allons parler aujourd'hui, est le huitième livre d'Ostend chez Gallimard, preuve de la fidélité de cette maison à cet écrivain rare qui entretient une véritable proximité à la friche où nous sommes aujourd'hui. Il y a bien entendu les livres qu'il a écrits ici, l'écriture de textes pour la compagnie Les Bricioles avec le théâtre Massalia notamment. Il a réalisé des émissions de radio, des portraits d'artistes, toute une série de collaborations qui inscrivent ainsi son parcours dans cette ville où il réside, Marseille. Jean-Pierre Ostend est notre invité aujourd'hui pour parler plus particulièrement de son dernier livre, La Présence, mais pour évoquer aussi le texte qu'il a publié aux éditions Le Bec en l'air, Vous qui tuez le temps, avec des photographies de Franck Pourcel. Pour cette émission enregistrée au restaurant des Grandes Tables de la Friche, nous sommes entourés de lecteurs assidus de l'œuvre d'Ostend ou de lecteurs occasionnels qui l'ont fait pour la première fois avec cet ouvrage. Suzanne Joubert, tout d'abord, auteure, collaboratrice du Théâtre des Bernardines, à qui je dois d'ailleurs la découverte d'Ostend en 1991. Je crois même que j'ai encore les livres qu'elle m'avait prêtés à l'époque, beaucoup de livres de poésie. Lucien Bertolina, compositeur, résident de Fonia, professeur à l'École d'art de Marseille, auteur récemment publié d'un très beau texte sur son aventure avec des enfants de la ZUP numéro 1. Bernard Omadia, maître de conférence à Aix-en-Provence, une institution dans laquelle vous enseignez la littérature. Vous avez également créé plusieurs sites sur la littérature contemporaine comme lit-and-co.org. On en parlera également avec vous et vous nous parlerez plus particulièrement de Vous qui tuez le temps, un ouvrage qui vous a particulièrement touché. Rémi Dutoit, paysagiste qui travaille dans le sillon, peut-on dire, du paysagiste Gilles Clément, qui travaille à Marseille, qui a réalisé déjà un certain nombre de projets dans cette ville, parfois difficilement, et on s'en était fait l'écho en son temps. Et il a découvert l'œuvre de Jean-Pierre Ostend, qui parle beaucoup de paysages, justement, et il nous apportera son expérience de la découverte de l'œuvre de Jean-Pierre. Et puis Christian Carignon, maître en scène, metteur en scène, comédien, animateur avec Cathy Deville du théâtre de cuisine, et il est un lecteur attentif du travail d'Ostend, il n'en est pas à son premier essai. Et puis Pascal Neveu, le directeur du FRAC, qui a lu également ce dernier livre de Jean-Pierre Ostend. Il a également, lui aussi, bien des choses à dire sur la relation particulière que l'on retrouve, là encore, en tous les cas à mon avis, dans ce livre, sur cette relation vraiment que Ostend entretient avec les arts plastiques. Mais pour débuter cette émission, il nous faudrait quelqu'un qui accepte de faire un résumé, un pitch du livre. Et c'est Suzanne Joubert qui s'est portée volontaire pour nous présenter La Présence de Jean-Pierre Ostend. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir. Je me suis portée volontaire pour faire la chose la plus difficile qui soit, c'est-à-dire résumer un texte en général et ce livre en particulier qui est particulièrement foisonnant. Donc pour être au plus près du résumé, on va essayer de faire ça presque en une ligne. Comme ça, on tient le pari jusqu'au bout. C'est l'histoire d'un homme. Ça, c'est déjà une grande chose, hein, d'un homme qui va séjourner pendant un certain temps dans un château du XVIIIe siècle pour le transformer en parc d'attraction. Puisque cet homme travaille, est employé dans une structure, une énorme entreprise qui s'appelle Explorateur Club. Voilà.
Jean-Pierre, pour situer cette expérience, ce livre, c'est le huitième chez Gallimard. Vous avez déjà écrit une vingtaine d'ouvrages dans des domaines très différents. 15 ouvrages en tant que tels. Vous avez beaucoup publié ailleurs, des textes, et puis à la fois de la poésie, des romans. Ce nouvel ouvrage chez Gallimard, comment vous l'avez initié? Vous avez des personnages, vous avez une situation, vous avez une époque, vous avez des thèmes. Comment, pour ouvrir ce débat, comment vous avez décidé de vous situer quelque part et de vous entourer de cet univers et de l'univers particulièrement passionnant donc de cet homme qui s'appelle donc Monsieur Bergman.
Je me suis retrouvé dans un château du XVIIIe siècle à résider dans un pavillon entouré d'arbres au milieu d'un parc de 60 hectares à l'automne. Et il s'est passé ce qui s'est passé à peu près dans le livre, sauf que je n'avais pas pour mission de faire une étude du parc et du château pour le transformer en parc d'attraction dans la mesure où le château n'était pas rentable, ce qui est la mission quand même du personnage principal. Le château n'étant pas rentable, l'État décide de le confier à une entreprise, l'Explorateur Club, pour faire des propositions en vue de le rentabiliser. Donc le lien direct, c'est que je me suis retrouvé dans des conditions similaires, avec les mêmes animaux, les mêmes jardiniers, les mêmes arbres, et le même décor que celui du livre.
Alors, il y a un élément déterminant dans le livre, et on va bien entendu longuement discuter de la question du paysage. Il y a un élément déterminant, c'est vous vous êtes retrouvé dans ce château quand ?
À l'automne.
Et à un automne précis ?
Oui, mais je le tiens secret pour l'instant.
Parce que ce que l'on découvrira quand on rentrera dans ce livre, c'est que ce château a été, en fait, le parc de ce château a été dévasté.
Donc, vous pouvez le situer après 1999.
Après la Grande Tempête.
Exact.
Alors, je voudrais qu'on commence par parler ensemble autour de cette table des personnages chez Jean-Pierre Ostende. Dans tous ces livres, moi je ne sais pas, mais en tout cas dans ma pratique de lecture, je suis presque toujours amené à faire des petits jeux avec les personnages de Jean-Pierre pour savoir qui est la fille de qui est le père. De quelle époque parle-t-il ? Comment est-ce qu'il réussit à tenir les fils ? Et pour connaître aussi la partie de son travail sur l'Explorateur Club, sur un terrain plus plastique, on sait qu'il aime bien ces petits diagrammes. Alors, sur les personnages de ce livre, donc, Bergman, qui en est l'auteur, finalement, qui est au cœur de ce dispositif, Christian, peut-être, vous pourriez commencer par nous dire comment est-ce que vous avez ressenti ce foisonnement de personnages qui, finalement, entretiennent tous entre eux des liens troubles.
Ce qui m'a touché beaucoup dans ce livre, d'abord, on n'apprend pas tout de suite qu'il s'appelle Bergman, et on apprend très tard qu'il s'appelle Jacques. Donc c'est je qui parle. C'est vrai que quand je vois Bergman pour la première fois, je pense au réalisateur Bergman, et ça m'a mis tout de suite sur une espèce de piste. Je me suis retrouvé dans un jeu de piste et je me suis dit, tiens, il est en train de nous lancer il est en train de nous faire rentrer dans un jeu de piste avec des fausses pistes aussi, des voies royales, et on est dans le cinéma. Alors je me suis retrouvé à jouer avec les noms des personnages et à me dire, Jack, il évoque Shining, donc Jack Nicholson, mais aussi Jack Nicholson, le personnage de... Il s'appelle aussi Jack. Donc on a un tas de rebondissements comme ça qui nous font partir vers les Grant Wood. Et moi j'ai pensé à Gary Grant, évidemment, et à Woody Allen, Wood. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce jeu de piste, mais enfin, en tous les cas, moi j'étais embarqué, Boriska, le fameux Boriska, qui est l'acteur qui fait un film qui s'appelle La Réplique, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, ouais. Donc, Boris Karloff, est-ce que c'est lui ?
On peut supposer que c'est lui.
Oui. On peut supposer que c'est lui, oui. Donc, je ne sais pas si c'est exactement là où vous voulez m'emmener.
Le film, ce n'est pas La Réplique, mais La Momie de la Marquise.
La Momie de la Marquise, oui, d'accord, ok. Bon, enfin, moi, je suis tombé dans cette espèce de roman crypté où il y avait du cinéma et de la bande dessinée derrière. Et à chaque fois que je tombais sur un nom propre, il était en train de me dire quelque chose. Peut-être je pourrais en reparler plus tard.
Restons sur les personnages. Qui aimerait réagir sur ce, sur ce thème ?
Oui, moi, j'avais jamais lu de roman de Jean-Pierre Ostende. Donc, j'ai eu à le faire là en 10 jours. Et heureusement pour moi, ça m'a plu. Parce que sinon, j'avais à lire un livre. C'est vrai, j'avais un petit peu peur au départ de ça. Et c'est vrai que cette histoire des personnages est assez, fabrique assez vite un trouble. C'est ce qui m'a intéressé. Parce que tout devient vivant, y compris l'inerte. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui ne sont pas vivants, qui deviennent des personnages, qui ont aussi un prénom. Et du coup, au départ, moi je ne comprenais pas tout de suite que des objets, que le portable s'appelle Eric, que le magnétoscope s'appelle Funès, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Le magnétophone s'appelle Philippe.
Philippe, voilà, Philippe, le magnétophone Philippe, qui répète les choses. Et du coup, on rentre comme ça... dans le domaine du vivant, tout devient vivant. Et ben voilà, ça m'a bien intéressé, les diverses réflexions qu'il y avait par rapport au paysage et par rapport au jardin, parce que là, on est en plein dans le domaine du vivant. Dans le domaine du vivant qui est, dans tous les cas, dans le roman, maîtrisé. C'est-à-dire que, qu'on soit dans les histoires de jardin à la française, où on ordonne les choses, ou dans un jardin plutôt romantique, où on fait croire qu'on n'a rien ordonné, de toute façon, on est toujours dans la maîtrise du vivant. Et ce positionnement-là, il a pour moi créé une jolie bascule, un bel embarquement dans ne plus trop savoir à un moment donné où se situe le vivant, le réel et l'irréel. Voilà. Ça m'a bien... Voilà, ça m'a fait penser, moi, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julio Cortázar, qui a écrit un livre qui s'appelle, Les Armes Secrètes, voilà, où il y a comme ça plein de nouvelles qui commencent dans la réalité et puis qui se terminent dans l'irréel total, mais on s'en est pas rendu compte. Il y a une nouvelle qui s'appelle La continuité des parcs, comme ça, qui m'avait assez bouleversé, parce qu'on passe comme ça du réel à l'irréel sans s'en rendre compte.
Alors, on rentrera tout à l'heure plus en profondeur sur cette question du parc et du paysage, qui est également un personnage central du livre. Mais Jean-Pierre, peut-être pour réagir et puis pour continuer ce dialogue sur les personnages, comment est-ce qu'ils apparaissent ? Parce que on vient d'en évoquer certains, mais on a également le docteur Travolta, on a Kaiser, on a Gordon, on a Louise Rubinstein, on a Henri de Brom, on a Michel de Santerre. On voit que derrière chacun, il y a une construction vraiment particulière. On a presque l'impression que vous avez par ailleurs raconté leur vie comme des monographies et qu'ensuite, dans le travail du roman, vous avez retravaillé ces différents éléments de texte.
Alors il y a les personnages qui dépendent de l'entreprise de fiction, l'Explorateur Club, qui est une entreprise qui s'occupe de formation, de relations humaines et de tourisme, ce qui permet, livre après livre maintenant, de pouvoir les installer dans n'importe quelle situation. Donc par exemple, en ce moment, je suis en résidence dans la cathédrale de Chartres et dans le palais du Thau à Reims, et donc l'Explorateur Club peut tout à fait s'adapter dans cette situation. Donc les personnages de Kaiser, du docteur Travolta sont des personnages, et Jacques Bergman sont des personnages de l'Explorateur Club, qui sont récurrents dans l'installation d'entreprise que j'ai faite. Et puis il y a les personnages qui sont directement inspirés du château, donc la comtesse, la marquise, son père, le gardien, qui sont là, ce sont des personnages qui sont directement inspirés de la réalité, du premier niveau de réalité.
Pourquoi avez-vous eu besoin de construire ce dispositif de l'Explorateur Club pour votre écriture ? C'est une démarche relativement rare dans l'écriture contemporaine, qu'il y ait un univers finalement qui puisse traverser plusieurs livres, peut-être toute une part de votre œuvre.
D'abord, j'ai voulu créer un cadre, un outil qui me permettait de pouvoir me déplacer dans le monde ou dans les siècles ou dans les livres avec à chaque fois une structure que je pouvais reprendre et sur laquelle je pouvais m'appuyer. Donc la première volonté, c'était celle-là. La deuxième raison, c'était de créer une entreprise, parce que je suis assez fasciné par l'univers de l'entreprise, et je trouve qu'il peut me permettre d'être relié au réel contemporain sans être dans le réalisme. La troisième raison, c'était que cette entreprise me permettait de créer une continuité à l'intérieur de plusieurs livres et ne pas faire ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire chaque fois que je publiais un livre, je me lançais dans une autre histoire complètement différente et j'avais envie d'un suivi pendant quelques livres ou quelques années.
Pascal Neveu, on a l'impression qu'avec une démarche d'écrivain comme celle que Jean-Pierre Ostend mène depuis plusieurs années maintenant, on est finalement dans un parcours d'artiste qui est finalement assez proche de plasticien ou de cinéaste, qui finalement touche différentes disciplines et s'exprime dans celles finalement qu'ils ont choisies, le cinéma pour certains, les arts vidéo pour d'autres, les arts plastiques pour d'autres, et pour Jean-Pierre, la littérature.
Oui, effectivement. Alors moi, j'ai également découvert l'œuvre de Jean-Pierre Ostend très, très récemment à l'occasion de notre première collaboration avec Joachim Mogara, avec ce livre « L'art de la figue ». Et c'est vrai que dans la présence, on retrouve tout cet univers, ces compagnonnages artistiques qu'il a pu avoir, ses proximités. On sent qu'il y a aussi une pratique tout à fait plastique de l'écriture. Et effectivement, j'ai pensé beaucoup au cinéma en lisant ce livre à travers les paysages qui sont comme une succession de tableaux, de fiction, où effectivement on ne sait plus si on est des paysages ou des personnages, et où on ne sait plus non plus si on n'est pas là face à un scénario d'un film en devenir, en fait. Donc ça, c'est une question que je voulais poser également à Jean-Pierre, si c'est la tentation du cinéma, il ne l'avait pas eu, ou on n'avait pas envie en tout cas après ce premier ouvrage.
Moi, j'aimerais bien écrire pour le cinéma, mais je crois que je ne suis pas vraiment dans les créneaux de l'écriture cinématographique, et le dernier essai que j'ai fait pour le CNC a été même pas présélectionné. Donc je crois que c'est pas vraiment réussi le mode d'approche de, au moins pour le cinéma français, je suis incapable de le faire.
Vous avez été adapté à l'écran quand même.
Oui, il y a un livre qui a été adapté avec Jean Rochefort et Marisa Paredes.
Qui s'appelle Le Cri du Cochon.
Qui s'appelle Le Serpent a mangé la grenouille. Mmh. Là, c'est dommage pour la radio, je ne vais pas le dire, mais c'est comme ça.
Sur les personnages, on en parlait également dans les émissions précédentes, celles qui ont lieu pour cette série, mais également dans les précédentes émissions sur vos livres. Il y a également un humour terrible dans le choix de vos personnages, dans la manière dont vous les nommez, dans la manière dont vous les faites évoluer, dont vous jouez finalement avec parfois des caricatures qui sont complètement incarnées par le nom lui-même. D'où vous vient ce goût finalement d'un humour terrible avec vos personnages?
Je ne sais pas d'où vient le goût de l'humour, peut-être que je peux dire que des banalités sur l'humour, parce que l'humour, c'est uniquement une façon d'être à distance et de se protéger. Ça n'a pas d'autre impact que d'être à distance. L'humour anglais, c'est toujours « never complain, never explain ». C'est toujours un moyen de rester quand même assez froid et distant avec le monde extérieur. C'est une protection. Il n'y a pas d'humour, sans, à mon sens, sans une envie de recul.
Il faut quand même se permettre d'appeler un de ces personnages le docteur Travolta ou un autre Thomas Cruisière, quoi. Enfin, il faut quand même.
Non, Thomas Croisière, c'est la traduction de Tom Cruise, mais c'est pas vraiment fantaisiste, ça peut arriver.
Jean-Pierre, Lucien, qui a beaucoup travaillé aussi avec Jean-Pierre.
Oui. J'ai parfois, quand je lis les textes, en particulier là, ce roman, je me dis, mais comment je pourrais lire ça sans connaître Jean-Pierre? C'est-à-dire que j'ai l'articulation qui est peut-être un peu trop liée à la connaissance que j'ai de Jean-Pierre pour avoir travaillé sur deux productions radiophoniques avec lui. Et moi, plutôt que de parler de cinéma, je parlerai de montage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Jean-Pierre travaille sur le montage de la matière, la matière écriture. Et les personnages, en même temps, pour moi, sont induits aussi par rapport au lieu. Le lieu travaille sur les personnages, et il y a tout ce jeu comme ça qui est
tout le temps en contrepoint, enfin pour moi, sur la lecture que j'en ai eue, de ces rapports. C'est-à-dire le personnage fonctionne aussi avec le lieu fonctionne avec la narration, même si elle est linéaire, on s'aperçoit qu'elle est complètement montée, construite, enfin, etc. Donc j'ai plus l'impression d'un travail de montage, oui, plutôt que de... Enfin, on sait que le cinéma, c'est le montage. Mais le montage, c'est aussi le travail sur le son, sur plein de choses comme ça. Et j'ai appris par contre quelque chose, je ne savais pas, mais alors là, je digresse complètement. L'automne, c'est masculin et féminin.
Oui, c'est vrai, il faut l'avouer.
Ben voilà, j'entre en matière comme ça et c'est tout.
Suzanne Joubert.
Enfin, alors moi, je parle de l'endroit d'où je suis, c'est-à-dire le théâtre. Et j'avoue que, d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé à Jean-Pierre, je lui ai posé la question, à Jean-Pierre Ostend. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai été très, très touchée par le titre. Je trouve que le plus beau personnage, il est là. Enfin, tout le mystère du livre, tout ce que ces personnages, autour de quoi ça tourne, c'est ça, c'est la présence. Parce qu'au théâtre, c'est quand même l'objectif ultime et la plus belle chose qu'on puisse attendre d'un acteur, c'est qu'il soit présent. C'est ça, on dit que c'est un acteur qui a de la présence. Donc c'est vraiment... je pense que les personnages qui sont là, ce qui est touchant, c'est qu'il y en a qui sont vraiment, il y en a qui, on ne sait pas s'ils existent, s'ils n'existent pas, et c'est tout le temps dans ce trouble. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la présence qui nous prend quand on lit. Moi, je trouve ça très touchant, et alors ça a peut-être un peu un mot troublant, mais au sens émouvant du terme. C'est un livre qui m'a émue. Je trouve que c'est important de le dire. Au-delà de l'art de l'écriture, de l'art de l'écrivain, c'est vrai qu'il fabrique de l'humour, parce que c'est un livre drôle en plus, avec une drôlerie qui n'est jamais méchante, mais une drôlerie très pointue comme ça, qui s'obtient par l'écriture elle-même, c'est-à-dire par des raccords de phrases de l'une à une autre. C'est très fort comme écriture sur ce plan-là. Mais la présence, ce titre est très troublant, et j'aimerais bien qu'il nous en parle un peu, comment c'est venu, quoi.
Mais la question de la présence à l'intérieur des lieux, elle m'occupe comme cela occupe beaucoup de gens quand ils rentrent à l'intérieur d'une maison, quand ils changent d'appartement, quand ils habitent dans une autre ville ou dans un autre lieu, qui a habité avant dans cet endroit. Quand j'étais dans la Friche, il y a une quinzaine d'années, une série des bâtiments à l'entrée donc du côté rue Jobin à droite était encore là et n'avait pas été détruite. Et c'était d'anciens appartements qui étaient occupés par les gens qui travaillaient dans la Friche, le système Friche Théâtre, le journal tactique ou autre. Et c'était donc des appartements qu'occupaient les contremaîtres et certains gardiens qui habitaient dans la Friche, des ouvriers qui étaient là. Et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder toutes les tapisseries et les salles de bain qui étaient encore là, sans penser aux meurtres ou aux disputes ou au bonheur ou au plaisir de tous ces gens qui étaient contremaîtres ou gardiens et qui avaient habité dans ces lieux. Je ne pouvais pas m'empêcher de voir les tasses à café des gens qui travaillaient dans la Friche entreposées dans les baignoires de ces appartements, sans penser qu'il y avait eu des gens qui avaient été en train de se baigner dans ces endroits. Ensuite, le lieu de la Friche, qui est quand même un énorme château industriel, je n'ai jamais pu visiter le lieu sans penser très souvent qu'il y avait eu là des dizaines d'hommes habillés en bleu et qui avaient travaillé dans cet endroit. Et que leurs traces, pour ne pas dire leurs fantômes, étaient toujours, ou leur présence était là, par l'odeur du tabac, parce qu'on ne pouvait pas aérer beaucoup et que le lieu avait été imprégné de cette odeur-là, mais par la place de tous les gens qui avaient été à cet endroit. Et je ne peux pas visiter, y compris dans une chambre d'hôtel, sans très souvent penser à tous les gens qui ont pu défiler et passer dans les lieux. C'est pas du tout quelque chose de surnaturel, mais tout à fait naturel. On visite des lieux qui ont déjà été habités et qui ont déjà été occupés. Il y a eu d'autres présences humaines dans la plupart des endroits où nous vivons.
J'aimerais également qu'on parle un petit peu plus de théâtre par rapport à ce livre. Il y a une phrase magnifique d'un personnage sur un autre qui dit « Il aimait la perspective parce qu'il aimait le théâtre et le théâtre parce qu'il aimait la perspective ». Et c'est une phrase qui est d'une très grande beauté, si je peux me permettre, mais en tous les cas qui évoque comme ça un univers entier par rapport à ce que justement le théâtre lui-même peut être et par rapport à ce que finalement la vie peut vraiment être. Parce que cet acteur finalement, cet acteur de sa vie, la joue complètement, et Bergman, eh bien, il va faire un théâtre finalement à partir de son expérience.
Mais là, le comte qui a transformé le jardin anglais en jardin français, donc par goût de la perspective, qui va travailler le théâtre dans la nature, j'ai quand même l'impression que le Land Art, il n'est pas né au XXe siècle, mais il est né bien avant, sauf qu'il portait un autre nom et qu'il n'avait peu de choses à voir avec celui d'aujourd'hui. De la même manière que je suis sûr que dans une grotte préhistorique, on avait des installations avec peinture et os et objets, mais on n'appelait pas ça installation et puis il n'y avait pas de vidéo. Donc le rapport à la fabrication à l'intérieur de la nature de théâtre est très très lointaine. Là, en ce moment, en travaillant sur la cathédrale de Reims, je m'aperçois qu'on parle évidemment, et je dis des choses très très banales pour les gens qui connaissent ça, mais qu'il y a des théâtres liturgiques qui sont tout simplement, quand vous rentrez dans une église ou dans une cathédrale, vous avez un grand chemin qui vous mène à une table. Ça, c'est la première chose. Et vous avez cette table, et autour de cette table, on va jouer quelque chose. Et dans la nature, c'est un peu la même chose, mais avec un angle et une perspective, justement, différente.
Alors, la nature, Rémi Dutoit, elle est parfois terrifiante dans la présence, parce que ce parc, donc, a été dévasté, finalement. Et un des personnages du livre raconte d'ailleurs que finalement la tempête soufflait les arbres comme des bougies. Donc c'est finalement aussi un traumatisme d'actualité que Ostende transforme dans ce livre et qu'il raconte, parce qu'il raconte aussi quelque part les séquelles de la tempête de la fin du siècle dernier finalement.
Oui, c'est... C'est sûr que ce qui, moi, m'a frappé à chaque fois dans ce roman, c'est que dès qu'on ne maîtrise pas, c'est effrayant, effectivement. Alors que c'est vraiment intéressant parce que je crois que maintenant, justement, la tendance plutôt de penser le paysage et même l'art des jardins... tend plutôt vers justement l'acceptation de cette non-maîtrise des choses.
Donc, c'est toujours ça. Lors d'un travail en entreprise sur le langage électrique, les spécialistes du monde électrique ou les gens qui s'assurent de la sécurité dans une centrale nucléaire, ça avait donné le titre du texte que j'avais écrit, c'est que tout ce qui est naturel peut être en danger. Pour quelqu'un qui s'occupe de maintenance et de sécurité, la moindre souris peut foutre en l'air une centrale nucléaire. C'est quand même inquiétant.
Rémi Dutoit, dans cet ouvrage, il y a malgré tout la confrontation permanente de deux idéologies du paysage.
Oui, mais elles ne sont pas si différentes que ça, je pense, en fait.
La française et l'anglaise.
Oui, hein, je pense qu'elles sont, simplement... un contre-pied culturel à une époque, mais au final, c'est la même chose. De toute façon, dans les deux cas, l'homme se situe au centre, je pense. Que ce soit dans le désir de géométriser la nature, de la plier de façon très assumée, dans un cas, et dans l'autre, de faire croire qu'on n'a rien fait, finalement. C'est, là aussi, c'est vraiment de formes de théâtre... différentes, mais en tout cas, dans les deux situations, l'homme est au centre de l'affaire. Dès qu'il s'agit d'une tempête, dès qu'il s'agit d'herbes folles, il y a un passage au début du pétage de plomb, là, où il y a justement tout se met en route sans maîtrise. Là, l'homme est plus du tout au centre. L'homme est plus du tout dans la maîtrise, et là, ça fait peur. Et enfin, je crois que voilà, y a un apprentissage à accepter cette non-maîtrise.
Jean-Pierre Ostend.
Le personnage principal est déjà aussi dans une légère angoisse dès qu'il ne maîtrise pas son téléphone ou comme certains avec leur ordinateur portable ou leur palme qui sont inquiétés dès que ça ne marche pas.
Ce que l'on voit aussi dans l'ouvrage sur le paysage, c'est que le paysage, c'est bien entendu des végétaux, mais c'est aussi des espaces construits ou des espaces révélés. Il y a une grotte que l'on a du mal d'ailleurs à vraiment situer, en tout cas que moi j'ai eu du mal à vraiment situer tout au long du livre. Il y a de l'eau, il y a des miroirs d'eau, il y a énormément de constructions humaines qui sont faites pas seulement avec le végétal, mais qui sont aussi travaillées avec le minéral et avec l'animal, parce que alors, les animaux ont une place dans ce livre qui est immense.
Oui, le vivant, enfin, ce que j'appelle moi le vivant, c'est-à-dire tout ce qui est... dont le mouvement est perceptible. Après, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que justement, là, le paysage est vraiment pris comme une présence, c'est-à-dire comme un reflet du temps et des personnes qui ont habité ce lieu. C'est souvent ça. On peut vraiment considérer un paysage à partir du moment où on prend un recul et qu'on a une dimension géographique comme le reflet d'une activité et comme vraiment un organisme vivant avec des parts vivantes, mais parce qu'il y a des hommes qui habitent dessus, qui vont construire, qui vont s'étendre. Et voilà, c'est vivant. Donc l'animal, pour en revenir aux animaux du parc, qui vient vraiment exacerber cette énergie-là qu'il y a dans le paysage, d'être en mouvement perpétuel, de toute façon.
Pascal Neveu, vous partagez cette vision de Jean-Pierre, selon laquelle le land art ne serait pas né au XXe siècle, mais préexisterait auparavant ?
Oui, non, tout à fait. D'autant plus que par le passé, dans un passé récent, j'ai réalisé plusieurs jardins d'artistes qui, justement, posaient la question du naturel, de l'artificiel, du construit, de l'arbitrage, de l'arbitraire. Et le tout dernier jardin, c'était un jardin de Bertrand Lavier, qui était un jardin à la française, justement, et qui posait clairement toutes les questions de l'artifice, en fait, de la maîtrise sur la nature, mais qu'on retrouve dans le jardin à l'anglaise aussi. Et il y avait aussi dans cette idée de transformer un château en un parc d'attraction. Un contexte que l'on retrouve assez régulièrement aujourd'hui. Le devenir d'un château, dans l'idéal, il devient une propriété privée, il est entretenu comme dans l'esprit d'un château. Au pire, il devient un centre de congrès, un lieu de rencontre ou un parc d'attractions, de loisirs, donc quelque chose de totalement artificiel. Et ça me renvoyait à une autre démarche aussi d'un autre jeune artiste, Michel Aubry, qui a travaillé sur les champs de bataille et qui, justement, avait soulevé l'idée que les champs de bataille étaient devenus aussi des lieux de loisirs et des lieux de promenade. Et ce n'est pas un phénomène récent non plus, puisqu'on sait que dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, le guide Michelin édite des guides des champs de bataille. Et on voit toute une iconographie avec des jeunes femmes en ombrelle visitant les champs de bataille comme ils visiteraient le parc d'un château, en fait. Donc je pense qu'effectivement, tout le vocabulaire du land art, toute la réappropriation par les artistes du vocabulaire du jardin n'est pas simplement un effet de mode récent, mais se nourrit de toutes ces aventures passées, de ces constructions qu'on peut renvoyer aux fabriques. Enfin, il y a des liens tout à fait évidents qui montrent que le jardin est devenu, en fait, aujourd'hui une vraie composition picturale et aussi politique.
Pourquoi autant d'animaux à un moment dans votre...
Je voulais dire quelque chose sur la question des loisirs. Parce que la question des loisirs, elle est très très liée à un rapport... De classe, c'est-à-dire que quand les aristocrates font du tourisme, ils font un tour d'Europe, les Anglais, et ils s'arrêtent à Venise, il y a quelqu'un qui les dessine et qui les peint, c'est comme ça qu'on créera le paysage, et ils reviennent avec leur image devant une statue, devant un monument vénitien. Là, c'est aristocratique, donc c'est très intéressant. Quand ce sont des hordes de gens qui se font photographier, soudain, alors ce n'est plus intéressant. Et pour l'attraction, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire, quand on fait un feu d'artifice dans un château, et quand on organise un jardin pour qu'il y ait des surprises, à chaque tournant, c'est trouvé et jugé, perçu comme quelque chose de noble. Quand on fait un feu d'artifice populaire, soudain, ce n'est plus intéressant. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas que c'est plus intéressant en soi, c'est que le jugement et le rapport que l'on a vis-à-vis de l'occupation et de l'activité est soudain dévalué parce qu'elle est utilisée par une autre classe. C'est ce que Bourdieu utilise dans son livre La Distinction, en disant quand on écoute la 9e symphonie au 19e siècle, c'est très bien, mais au 20e siècle, c'est l'épicier qui l'écoute, donc on va se rabattre sur la musique de chambre, parce que tout soudain, trop de monde l'écoute. La question de l'attraction et du tourisme est utilisée par les classes aristocratiques au XVIIIe siècle, mais dès qu'elle est devenue de façon un peu plus populaire, un peu plus générale, alors il y a un effet de distinction, l'entertainment ou le parc de loisirs et d'attractions Astérix ou à Los Angeles au Disneyland, c'est quelque chose qui est soudain populaire, plus intéressant ou autre, alors que c'est des choses qui ont été pratiquées tout à fait par d'autres classes à d'autres époques.
Alors, je voulais un petit peu approfondir sur cette question du paysage, sur la question de la présence animale. J'ai pas souvenir dans vos autres livres d'une obsession sur les insectes telle qu'elle est dans la présence. Les insectes sont présents véritablement, eux aussi, comme une menace pour Bergman essentiellement.
D'abord, dans le château lui-même et dans le pavillon, il y avait des insectes, des mouches mortes et des abeilles mortes. Et finalement, j'ai pensé que ça pouvait me faire une nouvelle obsession, une obsession de plus, que comme ça, elle tiendrait compagnie aux autres. Et j'ai trouvé que ça pouvait être un bon moment.
Il y en a énormément.
D'obsessions ? Oui. Ben, plus on en a, moins on s'y attache.
Sur un autre thème du livre, parce qu'on est finalement dans une confrontation d'époque, vous en avez parlé autour de l'entertainment, on est a priori dans un univers qui est celui donc du 18e siècle, et puis finalement on est confronté à l'univers quasiment du 21e siècle en permanence. Et vous vous amusez sans cesse à faire des liens finalement entre les positions des gens, les jeux finalement d'acteurs que chacun mène dans son époque, en jouant aussi là avec beaucoup d'humour, parce que Suzanne a raison d'insister sur ce point. On se demande par exemple pendant très longtemps ce que l'héroïne Michel de Santerre fait de ses nuits avec ses Américains. Donc vous jouez sans arrêt sur l'ambiguïté entre ces deux époques et finalement sur la proximité de nos deux époques, non ?
Oui, oui. Je joue avec les deux époques. Je sais pas à quoi répondre. Je suis un peu quelqu'un qui peut me souffler.
Christian,
je reprends un petit peu l'idée du roman crypté. Moi, je me suis senti vraiment manipulé par l'auteur avec plaisir. Hein, il n'y a pas de problème. Mais je suis souvent perdu dans l'espace, malgré que ce soit extrêmement précis. On est à 320 km de Paris, au sud-est. Il y a une centrale nucléaire, ça doit être trouvable sur une carte de géographie. Le château, il doit être trouvable. Ça doit être facile à trouver. Je me suis même dit, j'étais sur l'autoroute hier, j'ai regardé une carte, bon, j'ai pas trouvé. Mais bon, si ce château existe, il est vraiment facilement trouvable. Et on me donne toujours des pistes comme ça, dans le temps ou dans l'espace. Mais toujours pour me perdre. Alors, qui est le père ? Qui est la fille ? Michel de Santerre. Ensuite, il y a Jeanne, qui doit être sa mère. Mais c'est tellement... Enfin, je l'ai lu de façon tellement confuse, et je crois que c'est fait exprès, que je ne sais jamais exactement à quelle époque je me trouve. Est-ce que je me trouve contemporain de la guerre de 14 ? Est-ce que c'est plus tard ? Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est maintenant ? Quand Michel de Santerre a disparu, je crois que c'est dit une fois, mais en tant que lecteur, on a le droit d'oublier. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'ordre de la géographie, enfin, je dirais presque de la cosmologie, avec du temps et de l'espace, mais pas pour faire en sorte qu'on s'y retrouve, pour faire en sorte qu'on s'y perde complètement. Il y a cette crypte, cryptée, où je vois pas exactement où elle est dans le parc, c'est pas très important, mais enfin, il se retrouve dans cette crypte, ce Jacques Bergman, et bizarrement, il n'a pas peur, parce qu'il est enfermé. Et il vient de Paris, visiblement, puisque, oui, il est parisien, il a besoin de lieux clos, de lieux fermés. Et à chaque fois qu'il trouve un petit lieu fermé, comme ça, j'ai l'impression qu'il s'y sent bien.
Là, s'y sent bien, oui, je pense qu'il s'y sent bien, mais je ne crois pas qu'il y ait trop d'ambiguïté. Il y a des téléphones portables, il y a des contacts avec l'extérieur. Je pense qu'on sait pertinemment qu'on est soit à la fin du XXe siècle, soit au début du XXIe. Je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté du début jusqu'à la fin sur l'époque à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons, au moins en ce qui concerne le livre. C'est certain que le retour ou les déplacements sur le 18e sont fréquents, et aussi sur le début du 20e siècle, puisque c'est là que l'on détruit le jardin anglais qui va se venger sur le jardin français qui a pris sa place. Mais sinon, je ne crois pas que ça soit autre chose qu'un récit très, très clair de quelqu'un qui arrive dans un château au début du XXIe siècle pour faire une étude. Je ne vois pas comment on peut être perdu trop dans le temps, là.
Non, mais est-ce que personne n'a été perdu, par exemple, sur les activités nocturnes de Michel de Santerre ? Hein ? Oui, Suzanne ?
Justement, après, l'imaginaire travaille, ça, c'est très bien. Chacun...
Parce que Michel de Santerre rencontrait des couples. Rencontrer des Américains, des hommes d'affaires, la nuit. Et puis en fait, une dizaine de pages plus tard, nous saurons que c'est pour restaurer des églises. Donc tout ce mystère et tout ce jeu qu'il entretient, je rejoindrai moi Christian sur ce qu'il dit, c'est il le fait quand même pour nous perdre.
Oui, je ne sais pas si c'est pour nous perdre. Enfin, de toute façon, à la limite, je m'en fous. Moi, je suis quelque chose... Et ce dont j'ai envie de parler, c'est que ce qui m'a troublée le plus, justement, c'est que je me suis pas... Et ça m'a énormément bouleversée. C'est qu'on se retrouve avec une histoire à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est plus du tout une histoire. L'histoire, en général, c'est des couches. Et là, on est sur une histoire à l'horizontale. Je ne sais pas si c'est Leroy Gourhan qui a fait un travail là-dessus. Ça s'appelle Gestes et paroles, ou paroles et gestes, je ne sais plus. Ou justement, de mettre à jour des ossements sur une surface plane, comme ça, c'était des petits ossements. Et on se retrouve avec des époques différentes dans un même temps. Mais le temps, il est clair, c'est le 21e siècle. C'est quelqu'un d'aujourd'hui qui se retrouve confronté. Ah, moi, cet homme, il est bouleversant. C'est la solitude, c'est l'homme face à ce qu'il... C'est très politique, comme roman, je trouve aussi, fondamentalement politique. Pas politique au premier sens du terme, mais les soubassements le sont. Et le fait de se retrouver face à une histoire à l'horizontale, il y a des pages qui sont... Je les ai marquées, je ne sais plus où je les ai mises, je voulais en lire un petit bout, mais je ne sais pas bien... Il pourrait faire ça mieux que moi, Jean-Pierre Ostende. Il pourrait lire le petit morceau où ça décolle, où on a toutes les époques qui déferlent devant soi. Et ça, c'est assez bouleversant, quoi. Voilà.
Bernard Obadia, vous avez, vous, lu avec beaucoup d'attention un autre livre de Jean-Pierre Ostende. Et c'est vrai que c'est une des particularités, là aussi, de son œuvre. C'est, disons, un travail sur le motif qui revient dans... ses nombreux ouvrages, y compris dans les plus romanesques. Là, l'ouvrage que vous avez lu, Vous qui tuez le temps, n'est pas un roman, c'est un récit, ce sont des chroniques.
Alors, c'est une commande, et il a travaillé pendant un certain temps sur la diction. Je pars du principe qu'il faut toujours revenir au texte, donc je voudrais commencer par lire deux extraits de ce texte. Donc, il est dans un lieu qui gère la toxicomanie. Et ce que nous dit Ostende, c'est que les passants, donc le personnel aussi, est aussi concerné par ce qu'il nous dit. Souvent, les gens qui viennent chercher quelque chose et qui ont en même temps toujours le désir de remplacer le monde extérieur ne restent pas et s'en vont et retournent dans la rue chercher autre chose, une substance pour se stimuler, s'effacer, s'endormir, s'anesthésier, un produit qui va tout simplifier, faciliter l'absence, la disparition, la bulle, l'écran, réparer, soigner, rendre les choses moins complexes, arranger, dans un premier temps, régler beaucoup de problèmes dans un premier temps, avec autant de vie secrète et clandestine que d'exhibition, mais peu à peu. C'est un problème qui va grossir et qui va éliminer les autres problèmes, qui ne va pas diminuer les autres problèmes, qui va couvrir et masquer les autres problèmes. Deuxième extrait. Donc, il a écrit ce texte sous la forme d'un journal. Donc ça, c'était le texte du 13 mars 2006. On pourrait lire la totalité du texte parce que tout est extraordinaire. Et là, le 2 avril, voilà ce qu'il écrit. Alors, rappelons que le texte s'appelle « Vous qui tuez le temps ». Il met ça entre guillemets « Nous voulons être comme vous ». C'est une citation. « Disent souvent les gens qui viennent chercher quelque chose aux gens qui travaillent ici. Ils disent souvent qu'ils veulent être comme eux. Ils veulent consommer comme les gens qui travaillent ici. La même chose que les gens qui travaillent ici. Vivre entouré de murs et de fenêtres. Rouler dans une ferraille à roulettes. Avoir une femelle ou un mâle. Se reproduire. Ils veulent la consommation des produits et des droits. La consommation de l'amitié, du savoir, des relations, des maisons comme tout le monde. Des anniversaires. La consommation des vacances, des chaussures, des restaurants, des téléphones. La consommation de l'essence. La consommation de la mer. Des vêtements. Des montagnes, des médicaments, des gâteaux, la consommation des études, des stages, des formations, des émissions de télévision, des diplômes, des matchs de tennis, de football, la consommation du monde réel, de ce qui va de plus en plus vite, de ce qui s'accélère. Parce qu'ils aiment la vitesse comme tout le monde, et en plus, de plus en plus, la vitesse et la consommation, tout ce qui mange le temps. Donc je voulais lire ces deux extraits parce que c'est une part de l'œuvre. Alors moi j'ai une bibliographie devant les yeux, j'ai poésie, roman et une troisième partie, récit, notes, fiction, essai. Donc vous avez parlé de la présence, moi je voudrais parler brièvement de ce livre parce qu'il correspond à une part de l'œuvre d'Ostende. C'est une part très importante dans la mesure où Ostende, même quand il écrit un essai, il reste écrivain. C'est-à-dire qu'il y a une absolue... un absolu travail sur la langue. Le deuxième point, c'est là où l'écrivain s'occupe aussi du social, c'est que ce livre, c'est une tierce forme, c'est-à-dire que c'est un essai, c'est un récit, et c'est aussi un témoignage. Et en fait, il y a une circulation dans l'œuvre de Jean-Pierre Ostende, c'est que quand il écrit une fiction, il utilise des éléments sociologiques, anthropologique et même psychologique, on peut en reparler tout à l'heure, qui alimente sa fiction. Et donc, il y a une circulation de la réflexion dans l'œuvre. Donc, moi, j'ai de l'admiration pour ce texte. Je pense qu'il faut dire les choses. J'ai de l'admiration parce que, avec peu de moyens, il dit beaucoup sur l'humaine condition et la nature humaine. Et je pense que c'est un texte qui est en prise directe avec le réel. C'est-à-dire qu'il a cette force. Il vaut mieux lire ce texte sur l'état du monde et sur l'impasse humaine que de lire beaucoup de livres de sociologie. C'est ce que je préconise. Je pense que Freud disait les poètes nous précèdent là où nous venons. Et je pense qu'il y a des écrivains qui arrivent à percevoir l'état du monde beaucoup mieux et de façon plus pertinente que des sociologues qui vont avoir la patte, une espèce de patte théorique.
C'est quoi ? C'est Ostende, auteur politique, ou c'est une grande œuvre qui est forcément porteuse d'un certain nombre de sujets politiques essentiels dans notre temps ? Parce que les exemples que vous venez de citer, on pourrait trouver presque les mêmes dans le roman La Présence. Mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des parallèles sur des passages politiques de prise de position sur justement qu'est-ce que c'est que notre société de l'entertainment aujourd'hui, sur comment est-ce qu'on se comporte avec les hommes. Et dans le sens inverse, on pourrait citer dans le livre « Vous qui tuez le temps » des phrases qui font penser aussi à l'écriture d'Ostende. Moi, si vous me permettez, dans la même page d'ailleurs, c'est curieux, mais dans la page 45 de « Vous qui tuez le temps », il y a une autre petite notule, toujours parler de l'humour aussi d'Ostende. Vous comprenez, monsieur, il rapporte les paroles d'une mère, visiblement, qui vient dans ce centre. Vous comprenez, monsieur, je ne peux pas être tout le temps à cheval sur mon fils.
sinon ça va vraiment dégénérer. On lui a dit, vous avez raison.
Oui. Bon, il y a la fameuse question dans son œuvre. Il me disait un jour qu'il fallait qu'il se calme de l'humour, de l'ironie, du décalage. Il a dit tout à l'heure en live que c'était de la distance. Mais je pense que c'est parce qu'il est conscient de la comédie humaine et de la comédie d'une société qui est dans le paraître, dans l'exagération de la consommation. Dans ce texte, je vais rester sur ce texte, mais finalement, il nous parle beaucoup de la dépendance de l'être, comment les gens apprennent à être. Et finalement, ces toxicos qui vont dans un lieu qui est supposé les aider, les gérer, on s'aperçoit que ceux qui les accueillent, ils sont soumis au même problème, mais ils ont mieux négocié avec. Donc, moi, je pense que c'est un texte qu'il faut lire aussi. C'est une autre part de l'œuvre, parce que les romans, c'est la partie très visible de l'œuvre de Jean-Pierre Ostende, mais il y a une partie exceptionnelle, au sens propre. C'est, je dirais, le tissu qui entoure l'espace romanesque, c'est la réflexion. Le dernier point que je voudrais aborder, parce que je pense que vous allez repartir sur la présence, moi je suis absolument en admiration devant un écrivain qui a cette énergie de déplacement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte qui ressemble à l'autre et qu'il y a une volonté. Et l'interview qu'il a donnée dans le Matricule des Anges est quand même important, parce qu'il dit beaucoup de choses et il a cette expression, c'est dans son style, c'est que le moule à gaufre. Et s'il y a un écrivain qui ne va pas utiliser le même moule pour faire le même livre, c'est bien lui. Donc à un moment donné, le journaliste lui dit « Mais vous voulez jouer à Balzac ?» Et il dit « Non, surtout pas, donc pas une cosmogonie littéraire. » Mais l'idée de reprendre des personnages, de déplacer, mais d'avoir des thèmes et de les déplacer, c'est peut-être de trouver une unité dans cette œuvre qui a l'air explosée, parce qu'elle est dispersée. Et en même temps, elle a une grande unité, d'abord dans la langue, parce que c'est écrit, dans la thématique. Alors moi, la présence, je pense que c'est une espèce de synthèse de ce qu'il a écrit, notamment dans les thèmes qu'il aborde depuis longtemps. Mais surtout, et c'est ce souci de l'écriture qui est frappant et qui nous permet... Il le dit, moi, je trouve qu'il va très loin quand il dit « Moi, j'écris des livres pour des bacs plus 5. » Donc c'est un défi. Eh bien, je pense qu'il faut faire un effort, et un effort pour essayer d'entrer, comme on a des difficultés à entrer dans certaines œuvres contemporaines où il faut un peu travailler.
Jean-Pierre,
Je n'ai pas dit que j'écrivais pour... c'est que je regrette que les lecteurs aient tous ce niveau, et j'aimerais bien que pouvoir être lu par des lecteurs qui ne sont pas tous de grands lecteurs. Voilà. Et pour l'instant, j'ai un public de lecteurs très très avertis et très connaisseurs de la littérature. Et je regrette, pour moi, quand je dis ça, c'est une faiblesse de ma part. C'est-à-dire que je n'arrive pas pour l'instant à trouver quelque chose qui soit plus simple dans la façon de faire. Mais il se trouve que, enfin, ça avance petit à petit, quand même de mieux en mieux. Mais je regrette de m'adresser, enfin, d'être souvent perçu uniquement comme quelque chose qui produit de la difficulté, ou en tout cas, une difficulté littéraire.
Mais ces textes, par exemple, on va dire, vous pensez qu'ils ne peuvent être lus, vous qui tuez le temps, par exemple, que par des bacs plus 5? Moi, j'en ai pas du tout le sentiment. J'ai l'impression que, et on l'avait vu d'ailleurs avec Jean-Pierre et Suzanne et Lucien, quand Jean-Pierre a écrit des textes qui étaient lus par des enfants, par des femmes analphabètes, par des tas de gens qui étaient dans le quartier et qui s'appropriaient cette langue. Et dans la langue de vous qui tuez le temps, dans ce journal, finalement, on peut assez bien imaginer que les travailleurs sociaux de l'AMTA ou que les usagers de l'AMTA se retrouvent là-dedans et le lisent finalement comme un journal.
Je suis complètement d'accord. C'est un livre qui est très bref, très dense, mais qui est très intime, parce qu'en fait, il parle à chaque lecteur. Parce que c'est un prétexte, l'addiction et la toxicomanie. Ce texte, il parle finalement de l'humaine condition. On revient à cette question de Montaigne, à savoir qu'est-ce que vivre, comment se débrouiller, comment vivre. Donc c'est banal. Hein. Et puis, finalement, les gens qui se shootent, est-ce qu'il ne montre pas une part extrême de l'être? Il y a un écrivain qui nous gêne, qui est marseillais, hein, qui est Artaud, qui est allé dans une limite absolue. Et à un moment donné, ils l'ont raccroché au surréaliste. Et Artaud, il était avec du laudanum, il essayait d'être avec des stupéfiants. Mais nous, on peut se dire qu'on essaye d'être avec d'autres moyens, par exemple avec la consommation. Donc ce texte, il est très lisible, très facile à lire, mais surtout, il a la pertinence d'un texte qui ne vous touche. Punctum. Il fait un point, il vous touche. Voilà.
Jean-Pierre Ostende.
Oui, mais je ne peux pas toujours commenter.
Mais si, commenter. Commenter cette question politique, c'est quoi ce rapport à la politique que vous avez, cette question finalement que vous interprétez souvent dans ce que vous dites comme la question du motif finalement?
Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir un rapport politique. Mmh. Tout simplement, je lisais récemment Jean-Pierre Ferrini dans un ouvrage sur Gustave Courbet qui s'appelle « Bonjour Monsieur Courbet ». Courbet avait écrit au ministre en refusant la Légion d'honneur en disant « L'État n'a pas à s'occuper de l'art ». Et Jean-Pierre Ferrini rajoute « Et malheureusement aussi, l'art n'a peut-être pas beaucoup de compétences en matière politique ». Et donc je ne partage pas du tout l'idée que dès qu'on écrit une chanson, un roman, un film ou autre, on fait de la politique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La politique, c'est autrement plus sérieux, ou en tout cas, c'est autrement plus différent que d'avoir un travail artistique. Donc je ne suis pas du tout... Qu'ensuite, on puisse lire des éléments, mais alors on ne parle plus des mêmes mots et on ne parle plus des mêmes choses. C'est pour ça que je ne pense pas du tout, et je suis en désaccord complet avec les artistes qui pensent toujours faire de la politique dès qu'ils ont écrit quelque chose.
Alors, on va peut-être terminer cette émission en parlant des influences, finalement, artistiques que l'on peut retrouver dans la présence d'influences, ou en tous les cas des clins d'œil, et puis des objets, peut-être, qui sont là... très présent, une fois de plus, encore ce terme. Et alors, notamment avec ce jeu avec Philippe et Eric. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de poser la question à Christian Carignon, qui en a quasi profession, puisque le travail que vous faites, c'est justement la manipulation de ces objets et la manière dont on peut partir et raconter des histoires finalement très humaines avec eux. Alors, il y en a deux principaux dans l'ouvrage de Jean-Pierre, des objets finalement qui sont très technologiques, mais finalement, c'est un rapport à l'objet qui est très particulier chez Ostende aussi.
Oui, on ne travaille pas tout à fait de la même façon, parce qu'il anthropologise les objets, et nous, on a tendance à les utiliser tels qu'ils sont et pour ce qu'ils représentent. Mais en tous les cas, je suis très touché par Magda... Et alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Il y a le seul moment de trouble sexuel que j'ai trouvé dans le roman, moi, c'est l'histoire avec la trousse de toilette qui s'appelle Fabienne et qui s'appelle la deuxième fois Bénédicte. Elle a changé de nom.
Personne ne s'en est aperçu.
Eh bien, alors, enfin, mais vous, vous en êtes aperçu ?
Non, pas du tout.
C'est vrai ?
Oui, c'est une mutation. Alors, c'est peut-être l'éditeur.
Non, c'est pas possible. Non.
Si, si. C'est le correcteur, c'est la correctrice.
Non.
Je crois que la correctrice s'appelait Fabienne.
C'est un lapsus d'écrivain.
La correctrice s'appelait Fabienne.
Non, je pense pas. Elle a, moi, je crois que c'est...
Elle a trafiqué quelque chose.
Non, moi,
elle a toujours le dernier regard, de toute façon. Moi, je signe un bon à tirer, mais après, elle fait ce qu'elle veut.
Non, moi, je suis un lapin dans votre piège, et j'y tiens beaucoup. Je suis sûr que c'est un piège, votre
roman. Mais pourquoi associer le lapin avec Fabienne? Elle va pas être très contente.
Justement. Non, en fait, c'est Bénédicte au début et Fabienne à la fin. Alors, je suis même allé jusqu'à me dire, mais il crypte tellement ses noms que Fabienne, c'est Phèdre.
Est-ce qu'il m'en veut ?
Non, pas du tout. Au contraire, moi, j'adore quand on m'embarque. Moi, Jules Verne, moi, je trouve des influences de Jules Verne. Je peux me permettre de vous le dire, oui. Avec l'Explorateur Club, Phileas Fogg, le Reform Club, enfin...
Il y a du brouillard, Fogg, le brouillard.
Oui.
Encore une.
Encore une. Et moi, j'adore quand Jules Verne m'embarque dans des aventures inextricables. Et là, je suis sur un tout petit territoire Et j'ai l'impression d'être dans le labyrinthe de Shining, quoi.
Il y a Nicolas Sabatini aussi, l'inventeur de la machinerie théâtrale.
Exactement. Alors ça, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. J'ai pris les références du livre.
Le livre existe.
J'espère que c'est pas un piège.
Non, non, le livre existe. Bon,
merci. Merci parce que je l'ai commandé.
Le libraire était peut-être complice.
Bon, d'accord. Non, mais j'adore cette perte du lecteur. Enfin, moi, je me suis perdu. Et j'adore quand quand je sais que l'auteur est à la barre, qui sait où il m'emmène. Moi, je ne sais pas où je vais. Alors, moi, c'est un régal et dans la construction et dans l'écriture. Enfin, je tiens à dire aussi que cette écriture à distance, c'est un vrai plaisir de lecteur. Et bon, alors effectivement, prendre un livre, c'est toujours une difficulté. Mais la deuxième page franchie, c'est difficile de dire ça parce que personne ne le fait, personne ne lit. Et ben, tant pis. Mais la deuxième page passée, c'est le régal de l'écriture qui m'a d'abord tenu, quoi.
Jean-Pierre Ostend, peut-être pour terminer, pourquoi une aussi grande présence de la musique aussi dans ce livre, hein? J'ai dû noter une quinzaine de références musicales qui pourraient servir de playlist à la radio. Ça va de The Future de Leonard Cohen, en passant par Handel, Janis Joplin, Qui a peur du grand méchant loup, Claude François aussi, oui, des références en plus très hétéroclites, presque à l'image de notre programme musical.
Non, parce que j'écoute de la musique. S'il y a des chansons que j'écoute en boucle, qui m'inspirent. Il y a des titres de chansons qui m'inspirent. Il y a des paroles qui me servent. Et donc, elles reviennent dans les livres. Mais je n'ai pas de pourquoi. Ou alors, il faudrait que je prenne morceau par morceau. Ça serait un peu fastidieux d'expliquer pourquoi il y a Janis Joplin. Mais par rapport aux Américains au château, le lecteur comprend pourquoi il y a Janis Joplin et aussi pourquoi le rapport de classe entre ce personnage. Il y a un autre personnage qui s'appelle Paul Rubinstein. Il faudrait que je rentre dans le détail de façon trop technique pour que ça soit audible, là, parce que c'est très très lié à l'écriture du livre. Le lecteur peut le comprendre lui-même, comment ça s'organise. C'est pas un hasard. À la fois, ils m'accompagnent, mais ils soutiennent et ils ont plusieurs liens d'accroche. Mais c'est un peu difficile à expliquer comme ça, morceau par morceau.
Merci à vous tous d'être venus ce soir pour parler de ce livre, qui donc n'est pas politique, bien que Kaiser, si je peux me permettre encore une petite... ce qui distingue la démocratie des régimes, c'est d'abord la qualité de l'image.
C'est
d'abord la qualité de l'image.
Un traité de politique. Hein,
ce n'est pas un traité de politique, mais c'est un roman absolument passionnant, qui est, comme disait Bernard Obadia, très inscrit dans son temps et qui parle de ce temps-là, bien qu'une partie se situe au XVIIIe siècle. Merci à vous tous d'être venus. On va terminer, bien entendu, cette émission par une signature de l'ouvrage que l'on peut trouver, notamment à la librairie L'Odeur du Temps, et que vous pouvez également acheter aux grandes tables de la Friche pendant quelques temps, avec d'autres ouvrages de Jean-Pierre Ostend, je le rappelle, les 8 ouvrages chez Gallimard, et les autres publications qui sont sorties chez des éditeurs comme Le Bec en l'air, avec Vous qui tuez le temps, que vous recommandez particulièrement, Bernard Obadia. Merci à vous tous d'être venus, merci au public également qui était avec nous aux grandes tables ce soir pour la présence de Jean-Pierre Ostend. Thank you.